Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. La dernière émission, nous avons abordé la relation qu'entretient l'observateur avec l'œuvre d'art et je vous ai démontré que la relation était possible à condition de s'en donner les moyens, à savoir qu'elle dépendait de vous, à la fois de votre curiosité et de votre appétit à acquérir des connaissances extérieures et aussi à solliciter votre intériorité en expérimentant, ce qui veut dire que vous passerez au tamis de votre sensibilité et de votre réflexion ce que vos sens ont été capables de percevoir. Alors, dans la plupart des cas, en fonction des personnes que j'ai pu rencontrer sur les lieux d'exposition, la relation à l'art pose problème, ce qui, d'un point de vue général, est tout à fait concevable et même légitime par rapport à la complexité du monde artistique tel qu'il se présente de nos jours. Cependant, sachez que le premier pas, c'est de se rendre disponible. Vous disposez de sens et donc vous avez des yeux pour voir, comme vous avez des oreilles pour écouter de la musique, des mains pour ressentir une texture ou une bouche pour goûter tel mets ou tel vin. Donc vous disposez du principal, vos sens, pour appréhender l'extérieur et les œuvres plastiques. Et donc c'est le premier pas vers l'artistique. Ensuite, et bien évidemment, ce n'est pas suffisant car à partir de vos sens, il est nécessaire que l'information circule et touche votre intériorité là où elle le doit, impliquant selon le cas vos émotions, vos sentiments, vos réflexions. Et c'est bien à ce niveau que vous devez prendre le temps de rentrer dans l'œuvre une fois que vous vous êtes ouverte à elle pour que s'instaure le dialogue entre vous et ce que vous regardez, que ce soit positif ou non. Et cela pour des raisons diverses impliquant l'œuvre ou vous-même. Quoi qu'il en soit, le droit vous appartient d'accepter ou pas la relation, d'aimer ou non. Mais avant d'en arriver là, il est nécessaire quand même de faire les efforts d'appréhension ou de compréhension. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui me tient à cœur puisque nous allons nous intéresser à la sculpture. Et comme vous le savez maintenant, à condition de m'écouter quelque peu, mon médium d'expression, qui est surtout la terre, implique les trois dimensions, puisque c'est par la forme et par le volume que je donne corps à ce qui m'anime et m'interpelle. Et c'est d'ailleurs en raison de mon rapport à l'espace, avec le volume, que je suis qualifiée de sculpteur. Alors il faut savoir que ce qualificatif s'applique en général à tout artiste ou artisan travaillant la forme avec la matière pour un résultat générant du volume, même si dans un sens traditionnel on entend par sculpteur quelqu'un qui sculpte, c'est-à-dire qui taille avec les outils appropriés, la pierre ou le bois par exemple. Alors on verra par la suite qu'en fonction des différents courants, d'autres matériaux s'intégreront à cette discipline qui est la sculpture. Quant au modelage, branche annexe ou intégrée à la sculpture, c'est la terre surtout qui en est le matériau de prédilection. Et la terre, donc l'argile, a souvent constitué le matériau, comme la cire d'ailleurs, employé par les sculpteurs occidentaux de ce dernier millénaire, comme ébauche d'une idée pour une œuvre plus aboutie, réalisée dans d'autres matériaux. Alors l'un des plus grands modeleurs du monde occidental contemporain fut Auguste Rodin. Rodin était donc également modeleur. Aussi, la terre fut un matériau qui, grâce à lui, au XIXe siècle, acquérit quelques lettres de noblesse car elle lui a permis de dupliquer à l'identique, en plâtre ou en bronze, des œuvres majeures. Alors grâce à ce matériau basique, primitif et surtout malléable, il donna corps à ses idées en imprimant dans la matière l'expressivité qu'il recherchait. Ce que je comprends parfaitement car c'est grâce à ce matériau malléable et neutre que j'ai pu imprimer dans la matière moi-même la force des émotions, des sentiments et des idées qui me traversaient, ce qui a donné à mes sculptures son expressivité et son mouvement. Alors les contraintes de ce matériau, puisqu'il est malléable, sont de jongler avec le manque de stabilité, car le défaut de la terre, qui vous le comprenez est aussi une qualité, c'est d'être molle, et c'est un challenge parfois, lorsque la pièce est très accidentée, irrégulière et mouvementée, comme c'est le cas en général chez moi, de la faire tenir jusqu'à ce qu'elle sèche et cuise. En cela, le modeleur de la terre partage avec le potier les techniques de cuisson qui varieront en fonction du volume, de la nature de la terre plus ou moins chamottée. Chamottée voulant dire que sont intégrées dans l'argile des particules de briques pilées ou d'argile réfractaire concassée, ce qui permet de réduire les risques d'éclatement à la cuisson. Alors le défaut est que le travail en finesse d'une pièce est moins aisé. Et il m'arrivait d'ailleurs de combiner deux terres, une fine et une chamottée, pour obtenir l'effet désiré et me rassurer sur le fait qu'une pièce qui me demandait beaucoup d'énergie et des heures de travail n'allait pas éclater en mille morceaux dans le four. En plus, même si ma technique me permettait de ne pas vider la pièce, le risque de cassure était toujours présent. Alors par contre, si vous voulez réaliser un bronze à partir de votre terre, il est possible d'y intégrer des éléments plus rigides, genre ferraille, etc., à condition de ne pas la faire cuire, sinon elle éclaterait. Alors ensuite, à partir d'une empreinte, vous confectionnerez un moule qui permettra, avec les techniques que maîtrisent bien les fondeurs d'art, de reproduire la pièce à l'identique dans un matériau plus solide. Donc voilà globalement la technique pour optimiser la terre. En tout cas, la terre est pour moi le matériau qui me convient le mieux, dans le sens où j'ai besoin de me décharger de façon spontanée, impulsive et volontaire. Aussi, j'y imprime force et énergie afin qu'elle rende vivante ma réalité, voire plus, celle de notre incarnation. Enfin bref, j'ai mon propre cheminement que je ne vais pas aborder maintenant. Alors ensuite, à partir d'une sculpture réalisée et façonnée, je décidais, selon ce qu'elle m'inspirait, de sa possibilité à être transformée en bronze ou pas. Donc là, je vous donne mon expérience, et je pense, pour avoir vu et lu Rodin et appréhendé ses œuvres, que d'une certaine manière, j'ai partagé en partie quelque chose avec lui, ne serait-ce que dans ma façon de ressentir et de vouloir exprimer la vie, ce qui conduit à manipuler la terre d'une certaine manière. Bon, il en va de même avec Camille Claudel, d'ailleurs. Enfin, c'est en tout cas de ces sculpteurs-modeleurs que je me sens le plus proche, mais chaque artiste peut se sentir une filiation avec tel ou tel autre qui l'a précédé, et ce sans l'avoir cherché, et c'est ainsi, c'est tout. Alors, je rencontre d'ailleurs des modeleurs de terre dont l'approche est totalement différente de la mienne, ainsi que l'expression et aussi la façon de travailler. Certains, à l'inverse, seront plus ronds, plus doux, plus féminins dans leur façon d'aborder la terre, et leurs créations en témoigneront. Ce qui n'est pas mon cas, car curieusement, en tout cas jusqu'à présent, je fonctionne en complémentarité de valeurs féminines et masculines. En effet, je suis femme dans le sens où, après une période de gestation toute féminine, où je laisse petit à petit la créativité m'envahir et se développer en moi, lorsque c'est le moment d'exprimer à l'extérieur, j'ose presque dire accoucher, eh bien j'endosse une autre attitude beaucoup plus, je vais dire, virile, car j'engage un véritable combat où la terre est véritablement violentée, soumise. Et je peux dire que je vais rentrer dedans et que j'en ai partout. Alors c'est une attitude masculine, masculine voire conquérante, qui génère un résultat qui en a surpris plus d'un lorsque, sensible à la vitalité qui se dégageait de la pièce terminée, il se retrouvait face à une dame d'apparence plutôt douce et réservée. Alors de plus, les modeleurs de la terre accordent une place plus ou moins importante aux matériaux. J'ai rencontré des modeleurs où la terre a autant d'importance que ce qu'ils y mettent, si ce n'est plus. Ils accordent à la terre une valeur intrinsèque et recherchent des qualités de terre aussi éloquentes par leur aspect qu'eux-mêmes le seront avec leurs idées. Et ils l'emploieront en expérimentant des techniques comme le raku, par exemple. Alors que pour moi, la terre, c'est sa malléabilité qui m'intéresse et ce que je vais pouvoir y imprimer. L'important, c'est ce à quoi elle donnera corps et vie lorsque j'aurai puisé dans mon intériorité. Alors en ce qui concerne la taille de matériaux plus durs, c'est-à-dire le bois ou encore mieux la pierre, outre le fait que ces matériaux imposent leurs impératifs techniques avec outils adaptés, ils requièrent une approche plus réfléchie et concentrée, sachant qu'une fois la matière retirée, on ne peut plus la remettre. Or, vous comprenez bien que ce n'est pas le cas avec la Terre. Vous en faites ce que vous voulez, sauf qu'il faut la stabiliser selon la manière dont vous la travaillez. Par contre, la pierre et le bois sauront être plus stables, ce qui est logique. Enfin, de toute façon, chaque artiste choisit son matériau en fonction de son mode de fonctionnement, de l'effet recherché et de l'aisance qu'il éprouve à s'exprimer avec tel ou tel médium. Et souvent, j'ai pu constater que les sculpteurs sur bois ressentaient un véritable amour pour le matériau avec lequel ils coopéraient en respectant les veines ou les nervures, mais qu'ils étaient soumis aussi à des obstacles genre un nœud mal placé, etc. Parfois, la pièce inspire le sculpteur, quelque chose dans la forme ou les veines, et c'est pareil avec les sculpteurs sur pierre qui choisissent une pierre pour son aspect, sa beauté ou ses reflets, etc. Certains sculpteurs ont besoin d'un rapport de force, de se sentir physiquement en confrontation avec une matière qui leur résiste. C'est ce que me disait l'un d'eux qui a choisi la pierre, même si chaque sculpteur peut manifester sa préférence en fonction de la couleur ou du rendu de la pierre qu'il travaille. Or, je sais que Michel-Ange, qui pour moi est un maître inégalé, le sculpteur accompli par excellence, lui, il dignifiait la pierre, notamment le marbre, le fameux marbre de Carrare qu'il allait chercher lui-même dans les carrières de l'Italie centrale, comme tant d'autres sculpteurs au XVe siècle. Et dans ce marbre, il extrayait la forme monumentale, notamment humaine, qu'il y voyait. Bon, c'était un travail de titan. Il était tellement accaparé par son travail qu'il ne prenait même plus la peine, lorsqu'il était fatigué, de retirer ses bottes pour dormir. Et dès qu'il avait repris des forces, il repartait d'une certaine manière, lui aussi, au combat. Mais quelle différence, même avec ceux qui travaillent la pierre actuellement et qui peuvent dégrossir leur travail avec des outils électriques performants. Alors la terre pour Michel-Ange n'était qu'un matériau négligeable, indigne d'un vrai sculpteur, et lorsque nous voyons ce qu'il a produit, on ne peut qu'être d'accord d'une certaine manière, parce que ce qu'il a fait est véritablement titanesque et combien inspiré. Enfin, c'était aussi un autre temps avec d'autres mœurs. Alors dans la première émission, je me souviens d'avoir évoqué Michel-Ange et ce fameux choc esthétique que j'ai ressenti en admirant uniquement des photos de la merveilleuse Pietà exposée maintenant à Rome et qu'il a réalisé lorsqu'il n'avait que 25 ans. Bon d'accord, j'ai peut-être une sensibilité quelque peu particulière en raison, entre autres, de mes activités artistiques, mais quand même, moi je trouve dans cette pièce quelque chose de divin, de véritablement spirituel, parce que une grande humanité transpire au travers de la délicatesse que la forme exprime et qui témoigne en plus de l'incroyable talent et du savoir-faire de l'artiste artisan ou de l'artisan artiste qu'est Michel-Ange. Alors voilà globalement ce que je peux dire sur la sculpture et les sculpteurs. Certains artistes, notamment actuels, en restant dans la forme et le volume, sont polyvalents. Ils taillent la pierre et le bois, manipulent la terre et en plus récupèrent des métaux, des ferrailles qu'ils assemblent et soudent ou bien des déchets à recycler qu'ils transforment, etc. Et le résultat est souvent intéressant et insolite. Au fond, tout est possible du moment que dans un volume, une forme est éloquente. J'ai aussi tendance à dire que c'est la discipline qui vous choisit. Pourquoi la forme et le volume plutôt que la peinture, par exemple ? Bien que nous rencontrons beaucoup plus de peintres que de sculpteurs. Alors, en ce qui me concerne, par exemple, j'ai le sentiment que c'est la sculpture qui m'a choisi et ce fut une évidence dès que j'ai mis mes mains dans la terre. Pourquoi ? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'arrive à restituer quelque chose de personnel avec la forme et que je me sens dans mon élément lorsque j'ai les mains dans cette masse informe et froide qui tout d'un coup, sous mes doigts, disparaît pour donner corps à quelque chose de construit et de vivant. Et pourtant, combien de fois ai-je râlé, justement parce que la sculpture envahit l'espace, elle est encombrante, salissante, elle demande une manutention plus importante, une manipulation plus délicate et des moyens aussi un peu plus sophistiqués, car même s'il ne s'agit que de terre, celle-ci peut être lourde à porter, surtout si comme moi, elle n'est pas souvent, voire quasi jamais vidée et que le temps, en plus, ne vous rajeunit pas. Alors en plus et en général, lorsque vous exposez, ben vous devez trimballer des socles qui eux-mêmes sont encombrants et prennent de la place. Enfin, c'est ainsi, c'est l'aspect pénible conjuguant le poids et le volume. Mais par rapport à cette discipline qui est la sculpture, j'aimerais bien revenir en arrière. Et c'est d'ailleurs pour nous rendre compte que la sculpture, malgré sa position de parent pauvre par rapport à la peinture, a accompagné le développement de toutes les civilisations en illustrant les pensées, les préoccupations et les croyances humaines et en témoignant des coutumes. Car elle apparaît déjà à la préhistoire, comme c'est le cas pour les représentations graphiques de la grotte de Lascaux, par exemple, que les Périgourdins connaissent bien. Et aussi, je pense que vous avez entendu parler plus ou moins des fameuses Vénus, qui sont des figures féminines aux formes généreuses, supposées incarner la fertilité. Alors, aux alentours de 3000 avant Jésus-Christ, apparaissent des civilisations plus élaborées, bien qu'archaïques, comme c'est le cas dans les civilisations pré-chrétiennes orientales, où vous rencontrez la sculpture sumérienne. L'homme y est surtout représenté à genoux ou dans une position de craintive dévotion face aux dieux. Et ces sculptures, des statuettes en pierre diverses ou en terre, nommées Oran, O-R-A-N-T-S, apparaissent comme ce sera le cas plus tard en Mésopotamie. Puis, c'est la sculpture assyrienne dont les reliefs orneront les palais des rois en représentant personnages et animaux en situation. L'antiquité égyptienne qui date de l'époque prédynastique, c'est-à-dire environ 4000 ans avant Jésus-Christ, outre ses céramiques, nous livre également ses premières sculptures en pierre. Ensuite, de l'Ancien Empire, en passant par le Moyen Empire jusqu'au Nouvel Empire, la sculpture accompagne le développement de cette civilisation. Alors, avec le Premier Empire et la Première Dynastie, apparaissent des sculptures en pierre monumentales et architecturales, incarnant Dieu et souverain. Ensuite, dans le Moyen Empire, les sculptures en bois peintes apparaissent également destinées à accompagner au tombeau le séjour des morts. Et les sculptures en pierre offrent aussi à ces époques des visages plus expressifs. Puis dans le Nouvel Empire, cet art s'affirme en donnant l'image du sphinx, que ce soit du monumental ou des portraits plus modestes. La sculpture personnifie roi, reine et témoigne de la vie quotidienne. Et c'est à cette période qu'apparaît la fameuse sculpture portrait qui rend hommage à la beauté de la reine Néfertiti, entre autres représentations. Puis ensuite, l'Égypte de Ptolémée subit des influences grecques et romaines. Puis nous passons à l'Antiquité grecque avec la sculpture et l'art cycladique qui apparaît aux alentours de plus ou moins 2500 avant Jésus-Christ. Et ce sont des sculptures en marbre stylisé, équilibré, représentant les idoles et possiblement en relation, selon spécialistes, avec les rites de fécondité. Alors la sculpture crétoise, en passant par Mycène autour de 2000-1500 avant Jésus-Christ, se distingue par sa céramique et son orfèvrerie. Ce sont des statuettes donc en céramique, des objets décorés d'éléments s'inspirant de la nature et de la mer. La sculpture grecque telle que nous l'appréhendons le mieux apparaît autour du 6e siècle avant Jésus-Christ. Elle est en pierre, représente la figure humaine nommée Kouros pour l'homme, K-O-U-R-O-S, écoré pour la femme et rend compte d'une recherche dans les proportions et l'harmonie des formes. Elle acquiert autour de 500 ans avant Jésus-Christ plus de souplesse dans le mouvement et nous rentrons ensuite dans ce que nous appelons les canons de la sculpture classique. La sculpture qui apparaît est proportionnée et harmonieuse, élégante avec des mouvements qui mettent le corps en valeur et cette tendance s'affirme crescendo au cours du temps. Alors, par rapport au canon, ce mot est en relation avec un traité que le sculpteur Polyclète avait rédigé et qui mentionne ses idées sur les proportions idéales du corps humain. Et il présente une sorte de grille destinée à établir des rapports de proportions entre les diverses parties du corps, de manière à ce qu'une harmonie se dégage de l'ensemble. Par exemple, il fallait que la hauteur de la tête s'intègre 7 fois dans la dimension du corps, et elle a ensuite été ramenée à 8 fois. Or, de plus, sa conception de l'harmonie passait également par la posture du corps et la pose du personnage. Et pour vous rendre compte de son travail, vous voyez par exemple son Doryphore, hein, qui est la statue d'un jeune homme dont l'original était en bronze mais qui nous est présenté en marbre et que vous pouvez trouver sur internet si vous vous donnez la peine de chercher. Alors, autre sculpteur phare de l'époque classique et qui vient après Polyclète, c'est Praxitèle, qui lui est né à peu près 400 ans avant Jésus-Christ. Alors, ces sculptures incarnent la déité de l'époque, par exemple Hermès et Apollon pour les figures masculines et Athéna et Aphrodite pour les féminines. Alors, ces sculptures en pied, en bronze et en marbre soulignent la grâce des formes et des postures, l'harmonie des proportions telle que la sculpture classique la promeut. Et il est vrai que ces représentations sont plutôt flatteuses. Ensuite vient la période hellénistique d'environ 330 à 30 avant Jésus-Christ. La sculpture grecque se déplace vers des lieux comme Délos ou Alexandrie en y intégrant un peu plus de monumental et davantage de goût ostentatoire. Et c'est de cette époque que nous viennent la Vénus de Milo et la Victoire de Samothrace. Alors, un mot quand même pour les fameuses tanagras nommées ainsi parce qu'elles ont été majoritairement trouvées au XIXe siècle dans la nécropole mycéenne de Tanagra. Ce sont des statuettes en terre cuite apparues en Grèce au IIIe et IVe siècle avant Jésus-Christ, polychromes, dont les pigments colorés sont naturels et organiques, et ces petites sculptures représentent femmes ou enfants. Et on les trouve autour du bassin de la Méditerranée et elles sont liées à des rites funéraires ou consacrés à des dieux. Et il y a quelques années d'ailleurs, le Louvre a présenté une exposition sur les tanagras que je suis allée voir à l'époque pour me rendre compte de quoi il s'agissait. Alors, en passant par les Étrusques qui apparaissent autour du 7e-8e siècle avant Jésus-Christ, nous rencontrons les influences orientales, celles de la Grèce archaïque avec une statuaire plus spécifiquement funéraire. Mais il est à noter que l'art étrusque est véritablement remarquable par sa qualité. Les sculptures sont principalement en terre ou en bronze. Vous trouvez des stèles gravées, des sarcophages en terre cuite surmontés de personnages, des statues, des bas-reliefs, etc. Alors, la sculpture romaine, elle, bien qu'influencée par les Étrusques et les Grecs, avec des personnalités telles que César, Pompée, etc., affirme sa volonté, avec le portrait, de servir les desseins politiques. La sculpture, à partir de 500 ans avant Jésus-Christ, personnalise davantage et s'efforce de restituer la psychologie des personnages et la réalité. Ensuite, autour de l'avènement du Christ jusqu'à 500 après à peu près, bien que le modèle politique se transforme, la sculpture sert toujours des dessins politiques en accentuant l'importance accordée au portrait, auquel s'ajoutent les désirs de grandeur et d'ostentation. Alors, les portraits équestres en bronze apparaissent et s'affirment en exaltant la majesté et le prestige des souverains. Et on note aussi l'accentuation de l'utilisation du relief sculpté sur les frontons des bâtiments, etc. Alors, à ce propos, je vais faire quelques petites distinctions entre ce que l'on appelle la ronde bosse en sculpture, où il s'agit d'une sculpture totalement détachée d'un fond, ce qui veut dire que cette sculpture est vue de tous les côtés. Et quand on parle de relief, la plupart du temps, la sculpture dépend d'un fond qui la porte. Aussi, le volume sculpté s'en détache plus ou moins. Alors il est question de bas-reliefs ou de hauts-reliefs. Et la différence entre les deux, c'est qu'avec un bas-relief, les volumes se détachent faiblement du fond, alors qu'avec le haut-relief, la saillie est plus importante. Bon, sinon, d'autres techniques influencent le nom donné au relief, à l'exemple du relief égyptien, qui se caractérise par des contours gravés en creux, avec des sujets pourvus d'un léger modelé. Bien, ben nous arrivons à la fin de l'émission. J'ai voulu vous résumer l'histoire de la sculpture, car il me paraissait important, puisque j'aborde le sujet, de vous faire comprendre que la sculpture a toujours été présente et que son influence a traversé les époques. Mais ce n'est pas terminé et nous verrons cela la prochaine fois en remontant le temps jusqu'à nous. En attendant, bonne digestion, j'espère ne pas trop vous rester sur l'estomac avec cette matière quelque peu pesante. C'était Christine Darboux à la barre de La Voix des Arts.